Europe 1. Sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Bonjour à tous, bienvenue dans Historiquement Vôtre, 2 heures d'histoire décomplexée, particulièrement aujourd'hui, puisqu'exceptionnellement, vous pouvez coucher les enfants plus tôt, dès 16h03, 16h04, pas plus tard, c'est-à-dire maintenant, car nous allons rendre hommage cet après-midi aux grands obsédés de l'histoire. Un thème du sexe qu'il y a quelques mois encore, quand je le connaissais pas très bien, je n'aurais pas osé proposer à Stéphane Bern, que j'imaginais très prude, voire pudibond, mais au fil de nos apartés hors antenne, j'ai compris que lui-même aurait pu faire partie de nos personnages du jour.
Vous savez que je l'ai rencontrée, moi, Zaya. Elle est absolument charmante. Alors, elle est toute petite, mais très bien faite, très bien proportionnée.
Pour ce qu'elle a à faire, elle est à la bonne taille.
Bonjour Stéphane Bern.
Bonjour Mathieu.
Vous êtes beaucoup moins prude que je l'imaginais.
Oui, mais là, vous, évidemment, vous donnez des extraits un peu truqués, mais...
Vous assumez, Stéphane.
Oui, j'assume.
Vous aimez ça, vous aimez la vie, vous aimez la bagatelle, comme tout le monde, finalement.
Exactement. Et j'aime surtout en parler, comme tous les Français.
Et surtout. Alors donc, nos personnages du jour étaient complètement obsédés, peut-être encore plus que vous, Stéphane.
Oui. Alors bon, ils étaient débauchés, même. Hein.
Débauchés, vous n'en
parlez pas. Ben, écoutez, on va d'abord parler de Philippe d'Orléans, le régent.
C'est pas une légende.
La réputation sulfureuse, libertin pour les uns, premier à avoir protégé sa vie privée pour les autres. Il aimait bien s'entourer, vous allez voir. Lui aussi, c'est toujours très bien entouré, le président américain John Fitzgerald Kennedy. Il en a vu défiler, pas seulement dans les rues, mais dans son lit.
Oui.
Seul remède, j'ai jamais compris ça, parce qu'il disait que c'était un remède pour vaincre les douleurs que lui causait une maladie. Vous savez, il souffrait beaucoup.
C'est pas mal ça comme prétexte. Oui. J'ai jamais pensé à ça.
Alors, quant à vous, Mathieu, vous nous raconterez l'histoire d'un accro au sexe toujours parmi nous.
Oui, Stéphane, on l'a surnommé Monsieur 18 Trous, mais ça, je vous rassure, ça n'a rien à voir avec le thème du jour. Je vous parle de Tiger Woods, le plus grand golfeur de tous les temps, dont l'addiction au sexe lui a coûté un divorce, car oui, il ne pratiquait pas le sexe qu'avec son épouse, mais non plus.
Oui, et avec nous, comme chaque après-midi, des obsédés. Ah. Des obsédés d'histoires intimes, de bouffe et d'objets en tout genre. Elle nous entraîne dans l'intimité des grands de ce monde. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach.
Bonjour
Clémentine.
Bonjour messieurs et bonjour à
madame.
Tous. Et oui, et aujourd'hui, je vais vous ouvrir des horizons nouveaux en vous faisant découvrir qu'il n'y a pas que le sexe dans la vie. Il y a aussi l'amour, l'amour pur et chaste, l'amour platonique. Ah, combien de poèmes, combien d'alexandrins n'eussent pas vu le jour, fussent morts dans l'œuf si la dame était passée à la casserole. Et je m'en vais vous donner un exemple édifiant en évoquant les muses du grand poète Ronsard.
Ah oui. Il en parlait, mais il faisait rien.
Tout à fait. C'est bien résumé.
Lui, il en parle et il le fait. C'est David Castello-Lopez. Oui, j'ai décidé que vous étiez le beau gosse de la bande et que vous étiez très porté sur la chose. J'aime vous construire un personnage.
C'est David. Pas mythique.
Et chaque jour, surtout, vous revenez aux origines d'un objet pour nous.
Oui,
une invention.
Tout à fait. Et aujourd'hui, vraiment rien à voir. Hein, le feu rouge.
En général, il est vert, orange ou rouge.
Exactement. Donc, oui, alors après le rouge, on pourrait dire oui, c'est vaguement sulfureux.
Mais pourquoi il est dissocié du feu vert? C'est-à-dire qu'on a inventé le feu rouge avant le feu vert?
C'est comme ça qu'on dit en France. On dit un feu rouge. Mais c'est un feu de signalisation.
Un feu de signalisation.
Tricolore.
Vous ferez les trois, vous ferez le orange, le vert et le rouge. Pour le même prix.
En 16 minutes, voilà. Les uns après les autres.
On va parler de nourriture, évidemment.
Évidemment.
Alors, oui, d'où ça vient?
D'où vient une recette ou un produit?
Ou un produit. Le roquefort.
Bah oui.
Alors ça, c'est pourquoi ça,
c'est
Olivier
Pousse,
ça vous a vu cet aphrodisiaque, c'est vous utilisez le roquefort dans des pratiques sexuelles que...
Ah oui, alors ça marche très très bien. Ça,
c'est
je vous le recommande. Les jeux sexuels au roquefort, c'est extraordinaire.
Arrêtez.
Bien mieux que les pâtes à tartiner.
C'est une niche de la sexualité, quand même.
Oui, c'est des gens très très précis.
C'est à cause de la moisissure.
Oui, mais alors, je vous raconterai comment est né ce fromage, pourquoi on mange ce fromage pourri, en fait. Hein,
oui, c'est de la moisissure, en fait. C'est un champignon, quoi.
Et je vous donnerai une petite recette ultra simple et de saison avec du roquefort.
D'accord, mais on pourra rester habillé.
Oui, pour vous, oui, bien sûr.
Enfin, Stéphane, vous connaissez l'adage 100 fois sur le métier, tu remettras ton ouvrage. Et à force de perdre dans notre quiz Bern to be alive, vous risquez de finir par casser le métier. Mais je suis beau joueur, je vous laisse une ultime chance de vous racheter et de retrouver l'estime de nos auditeurs. Bern to be alive, opération dernière chance, ce sera vers 5h-10. Mais Stéphane, ne faisons pas attendre notre premier obsédé sexuel du jour. Philippe d'Orléans, le régent, était très à cheval sur la ponctualité et pas que sur la ponctualité.
Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
Ce n'est pas étonnant que le libertin ait inspiré un cinéaste. Ces soirées de débauche ont marqué l'imaginaire collectif et suscitent encore de nombreux fantasmes. Alors, quoi de mieux que le cinéma pour les rendre bien réels? Philippe d'Orléans aime le sexe, c'est incontestable. Mais contrairement à son prédécesseur, Louis XIV, il aime le sexe pour le sexe. À quoi bon s'encombrer avec des sentiments amoureux ? Le régent aime tous les plaisirs aussi. Abuse-t-il du vin, du champagne, de la bonne bouffe ? Il est dans l'abus le plus total. Et il y est dès sa naissance. Le futur régent Philippe d'Orléans voit le jour dans le berceau de l'extravagance en août 1674 au château de Saint-Cloud. Son père, Philippe, lui aussi, mais on l'appelle monsieur, monsieur frère du roi, frère de Louis XIV. Il est, vous connaissez monsieur, il est raffiné, féminé, il aime la compagnie d'autres messieurs, on dit qu'il a les mêmes amants que sa femme. Tandis que son épouse, Élisabeth Charlotte de Bavière, princesse palatine, est plutôt du genre matrone virile, vous voyez. Les parents du petit Philippe savent s'amuser, plus de 1000 fêtes sont données chaque année au château de Saint-Cloud. Élevé d'abord par des femmes, Philippe est ensuite confié à un précepteur, Guillaume Dubois. Ce drôle d'abbé de 30 ans lui délivre une éducation remarquable. Religion, histoire, science, chimie, latin, grec, anglais, allemand. Pendant que les gouverneurs s'attardaient, quant à eux, sur l'éducation sexuelle de l'enfant. Philippe a visiblement bien appris sa leçon. À 13 ans, il se fait déflorer par une comtesse qui en a plus de 50. Autre temps, autre mœurs. À 14 ans, il est déjà papa. Oui, Philippe a mis enceinte la fille du concierge des meubles du Palais Royal.
Bien joué.
Mais le rôle de père, très peu pour lui. Il a goûté au plaisir de la chair. Il en redemande encore et encore. Dubois, l'abbé Dubois, lui trouve tous les jours une nouvelle maîtresse. Oui, il faut l'avouer, Philippe fréquente des prostituées. En même temps, il faut pas aller chercher très loin puisqu'elle travaillait au Palais Royal. Son amour ne consiste que dans la débauche. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est sa propre mère. La princesse palatine qui avait sa
elle
langue.
Elle le connaissait bien.
Bah oui, la princesse. Vous savez, elle écrivait des lettres à sa tante. On imagine qu'elle va être contente d'apprendre que son fils se marie. Mais non, Philippe, bientôt 20 ans, se prend un violent soufflet. Tout simplement parce que Louis XIV le case avec Françoise Marie, une bâtarde qu'il a eue avec la Montespan. Il l'a légitimée, certes, mais veut désormais qu'elle épouse un prince de sang. Pour la princesse palatine, Françoise Marie reste une bâtarde que son fils prend pour épouse et c'est la honte. Mais on ne refuse rien au roi. Et un argument relayé par Dubois a fini de convaincre Philippe. Après le mariage, tu seras aussi libre qu'avant, lui a-t-on dit. Françoise Marie ressemble à un cul. C'est pas de moi, encore une fois.
Ah, j'ai cru vous permettre un jugement, un jugement de valeur.
Je ne me permettrai pas, Mathieu.
Ça vous ressemble
non,
pas,
Stéphane. Non, c'est toujours la princesse palatine qui parle. En plus d'être vilaine, elle ne fait rien de ses journées paresseuses. Elle ne se distrait qu'avec les potins et l'alcool qu'elle consomme jusqu'à l'ivresse, au moins 3 soirs par semaine. Le couple s'occupe quand même et elle donne 8 enfants à Philippe. Oh. Mais c'est loin d'être éclatant au lit, hein. Et lui la surnomme Madame Lucifer. Dans ses mémoires, Saint-Simon écrit que le dégoût d'un mariage forcé et si inégal lui fit chercher à se dédommager par d'autres plaisirs. Après moult manigances, Philippe devient régent à la mort de son oncle Louis XIV, pendant la minorité, comme vous le savez, de Louis XV. Il quitte aussitôt Versailles pour s'installer au Palais Royal, à Paris. Contrairement au roi Soleil, qui faisait tout, mais vraiment tout, en public, le régent déteste être en représentation. Ce qu'il aime, c'est vivre en petit comité. Pour vivre heureux, vivons cachés. On lui doit en grande partie l'invention de la vie privée au XVIIIe siècle. Le régent travaille sans relâche toute la journée, ne s'octroie que quelques tasses de chocolat en guise de déjeuner, mais le soir venu, les portes du Palais Royal sont fermées à double tour.
Mais vous allez les ouvrir, Stéphane, vous avez toutes les clés, on le voit dans votre émission.
Suivez-nous, mais ne dites rien. Nous sommes dans la salle à manger jaune du Palais Royal. Attenante à une petite cuisine, c'est une nouvelle pièce inaugurée par le régent. Il y est attablé avec ses rouées, surnommés ainsi car dignes d'être passés à la roue, tant ils sont débauchés. On reconnaît les marquis d'Effia et de Lafare, ou encore le grand prieur de France, Monsieur de Vendôme. Les femmes peuvent être filles d'opéra ou femmes du monde, comme Madame de Tencin, de Sabran, d'Averne ou de Falaris. Pour la plupart, c'est maîtresses qui paradent sur ses genoux. Au-dessus des rires retentit la voix du régent. « Mon gigot, mon aloyau !» Ordonne-t-il de la viande ? Non, déjà parce que la fête se déroule sans aucun
j'adore
domestique.
J'adore votre fausse naïveté, Stéphane.
Mais surtout parce que c'est ainsi qu'il surnomme sa maîtresse, Madame de Parabère. Car pour le régent, les femmes, c'est avant tout de la chair.
Donc on est bien avant MeToo, hein, j'ai l'impression, dans ce récit.
Ah oui,
hein, c'était une époque.
Oui,
il aurait mal réagi à MeToo, le régent.
Je pense qu'il aurait
du mal à s'adapter, je pense.
Mais évidemment, ne faisons pas d'anachronisme, si vous voulez.
Oui, là, c'est
je vous
bon
entraîne
dans le temps.
Au Palais Royal au XVIIIe siècle, évidemment. De la cuisine au lit, il n'y a qu'un plat.
les huîtres. Aphrodisiaques, elles sont gobées par toutes les bouches qui engouffrent en même temps bouillon, homard, langoustine, écrevisse, foie gras. À l'époque, il n'y avait pas, comment dire...
Weight Watchers, j'ai l'impression. votre fameux programme d'amincissement.
Les convives se droguent au sucre, avalant des montagnes de meringues et de glace pour faire glisser les victuailles dans les estomacs du champagne. Le régent lance ainsi la mode en France. Le breuvage coule à flot, ça picole sévère au petit souper du régent. Tout le monde finit passablement éméché. On buvait d'autant, on s'échauffait, on disait des ordures à gorge déployée et des impiétés à qui mieux, écrit Saint-Simon. L'alcool délie les langues. Le sujet préféré, c'est le sexe. Il est loin le temps des dévots de Louis XIV. Le régent surnomme le duc de Brancasse la caillette gay, le comte de Nocé a droit à Brachmardus, mais aussi mon beau-frère, car il couche avec une des maîtresses du régent. Le régent s'en amuse, on l'a dit, il ne s'attache pas. Il se disait que les demoiselles passent ainsi d'une étreinte à une autre. Tout ça se déroule sous l'œil vicieux de l'abbé Dubois. Décidément, l'habit ne fait pas l'abbé. Et vous allez voir que c'est loin d'être terminé, Mathieu. Qu'est-ce qu'il rit, ces princes de haut rang, sur de bien bas sujets de conversation? Le régent et son abbé Dubois, que le peuple de Paris surnomme le macro, s'entendent comme larrons en foire. Dubois aussi enchaîne les maîtresses et n'hésite pas à blasphémer. Saint-Simon nous le décrit dans ses mémoires. L'abbé Dubois était un petit homme maigre, effilé, chafouin, à perruque blonde, à mine de fouine. Tous les vices combattaient en lui, à qui en demeurerait le maître. L'avarice, la débauche, l'ambition étaient ses dieux. Pour tout vous dire, Mathieu, aujourd'hui, on le soupçonne même d'être athée.
On est d'accord que l'abbé Dubois, c'est Jean Rochefort dans Que la fête commence. Mmh. Et donc, il a cette phrase dans le film. Dans le film, une courtisane lui dit « Mais vous avez, dans la Bible, il y a ça. » Il dit « La Bible ?» Il dit « Vous n'avez pas lu la Bible ?» Il dit « Non, il faudra que je pense à la lire à l'occasion. »
Oui, c'est ça. Comme ça. Exactement. Pour railler l'abbé, le peuple s'en donne à cœur joie avec une chansonnette reprise dans les cours d'école. « il court, le furet du bois, mesdames. Il court, le furet du bois joli. » Je vous laisse apprécier la contre-pétrie.
C'est assez facile à détecter.
La réputation du régent est mitigée. Si sa gouvernance est satisfaisante, son comportement, lui, est jugé plutôt scandaleux. Et ce prince admirable passe ses nuits à table en se noyant de vin auprès de sa putain, lit-on dans un pamphlet. Mais quelle horreur lorsque la rumeur court racontant qu'une des putains n'est autre que sa propre fille. En 1710, la fille du régent s'apprête à devenir duchesse de Berry. Au même moment, Saint-Simon raconte que se débitent les choses les plus horribles sur l'amitié du père pour la fille. Mais s'il ajoute qu'à l'avarice près, elle était un modèle de tous les vices, cette relation incestueuse est infondée. Par contre, la duchesse de Berry, surnommée Joufflotte, est bien conviée au petit souper de son père. Elle y assouvit tout à la fois sa boulimie et sa nymphomanie.
Mais jusqu'où va aller cette débauche, Stéphane?
Jusqu'à l'épuisement, Mathieu.
J'imagine, oui.
Le gavage les rend malades, on se roule par terre. Ceux qui tiennent sur leurs pieds sortent d'eux-mêmes, les autres sont évacués. Le régent s'en amuse et demande à Dubois « Allons, chapelain du diable, récite les prières des morts pour celui-là ». Ça sent la fin de soirée. Le souper s'achève vers 3 ou 4 heures du matin. Une petite nuit s'impose. À 7 heures, le régent sera debout. Une grosse journée de travail l'attend. Suivi d'une folle soirée, évidemment.
Europe 1, historiquement vôtre.
Pour continuer à parler de Philippe d'Orléans, nous sommes avec Alexandre Dupilet qui publie un ouvrage qui lui est consacré. Bonjour Alexandre Dupilet.
Bonjour.
Bonjour Alexandre Dupilet, vous êtes historien, enseignant. Vous venez de publier Le Régent, Philippe d'Orléans, l'héritier du Roi Soleil, une riche et passionnante biographie parue chez Talendier. Est-ce que tout cela est avéré? Est-ce que vous pensez que ces orgies ont été quelque peu fantasmées ou exagérées par les mémorialistes de son temps?
Mais écoutez, un peu des deux, c'est-à-dire que effectivement, si le régent est resté dans la mémoire collective comme vraiment une sorte d'incarnation du libertin, c'est qu'il y a un vrai fond de vérité et que les petits soupers ont réellement existé. On sait que c'était quelqu'un qui tenait beaucoup à faire la part entre vie publique et vie privée. Donc, à partir de 7 heures du soir, eh bien, on arrêtait le travail, on fermait effectivement les portes du Palais Royal, on disait aux valets de s'en aller, on restait en petit comité, et là se déroulaient les fameux petits soupers.
Je veux pas refroidir l'ambiance, mais est-ce qu'on pourrait pas émettre l'hypothèse qu'on a on lui a prêté ses orgies libertines, justement parce que c'est quelqu'un qui voulait tout simplement cloisonner vie privée, vie publique, et que donc, comme il fermait les portes et qu'il renvoyait les valets, on imaginait qu'il se passait des choses complètement folles. Ou est-ce que c'est vraiment attesté, comme on l'a dit, il y avait vraiment des trucs très libertins qui se passaient?
Alors, le problème, en fait, c'est qu'on n'en sait rien. C'est-à-dire qu'on peut pas le prouver. Donc, non, a priori, ces orgies dont madame parle, c'était d'immenses beuveries, celles que vous venez de décrire. Par contre, que ces orgies dégénéraient en partie fine,
voilà,
on est vraiment dans l'ordre du fantasme, et tout simplement parce que c'est un régent qui n'est pas en représentation publique comme Louis XIV, qui ne s'affiche pas, y compris avec ses maîtresses, et donc, bien entendu, toutes les rumeurs les plus folles peuvent courir à son sujet.
C'est le premier à avoir dit « pour vivre heureux, vivons cachés ». Vous croyez qu'il était heureux, cet homme? Parce que, au fond, il a été plutôt il a bien gouverné le pays, même s'il y a eu le scandale de l'eau à ce moment-là. Mais tout de même, il a laissé la France, il a bien assuré la régence.
Alors, on oublie quelquefois de le dire, que c'est vraiment un excellent politique, qu'il est un personnage brillant. On peut aussi dire, c'est un très très bon musicien, un très bon peintre, un très bon chimiste. S'intéressait à tout. Oui, tout à fait. C'était une sorte un peu, voilà, un touche-à-tout un peu génial. Et après, c'est vrai que lorsque on étudie la régence de près, on se rend compte aussi qu'il se lasse assez vite des choses. Et par exemple, dès 1720, alors que ça fait déjà 5 ans qu'il gouverne la France et vraiment de main de maître, il a déjà envie de se retirer. Alors, c'est clair qu'il a voulu le pouvoir. De toute façon, on ne lui a pas demandé véritablement son avis, mais en tout cas, il le cherchait véritablement. Mais on voit que sur la fin de sa vie, il avait de plus en plus de difficultés à assurer de ce gouvernement, et que ça l'ennuie.
À cause de ses excès aussi.
Alors oui, c'est clair que
c'est quand même un débauché, on est d'accord.
On est absolument d'accord. C'est-à-dire que vraiment tous les soirs, on faisait bombance, on buvait énormément, on mangeait beaucoup, et les témoignages qui nous disent que le matin, il avait vraiment du mal à se mettre au travail et à se mettre en marche, et qu'en gros, avant 11h midi, quelquefois, il fallait pas trop lui parler, en tout cas, vraiment dans les dernières années de sa vie, ça s'est avéré.
Qu'il m'a fallu 3 Alka-Seltzer le lendemain, j'ai dîné chez vous la dernière fois, Stéphane, qu'on avait bu 2 verres de vin.
La prochaine fois, vous m'inviterez.
On parle du régent, on parle de ceux qui l'entourent aussi, ils sont nombreux, Stéphane l'a dit, certains ont l'air même plus obsédés que lui. L'abbé, le fameux abbé, est-ce qu'il est vraiment l'abbé vicieux qui initiait Philippe les d'Orléans aux orgies? Est-ce qu'il méritait son surnom de Macro, ou est-ce que tout ça c'était un peu exagéré?
Alors là aussi, c'est vraiment très exagéré. C'est-à-dire, il n'y a même aucune véritable preuve que l'abbé lui-même participait à ces petits soupers. Alors, le problème avec l'abbé Dubois, c'est qu'il vient d'un milieu extrêmement modeste, qu'il a gravi tous les échelons, qu'il est l'homme de confiance du régent. Quand on arrive vers 1717-1718, ça devient également un homme de pouvoir, et ça, c'est très très mal vu à cette époque.
Surtout par Saint-Simon.
Alors, par Saint-Simon, bien
sûr. Parce qu'en fait, Saint-Simon était proche du régent, mais il n'avait une obsession dans la vie, on peut le dire, c'est l'origine sociale, la naissance, il ne pensait qu'au titre, etc. Et donc, Dubois doit l'énerver.
Exactement. Et il n'est pas le seul, mais c'est vrai que les mémoires de Saint-Simon ont largement contribué à forger cette légende donc d'un abbé qui était athée. C'est très difficile de le dire. Alors, cela dit, Dubois avait des maîtresses, mais pour les hommes d'église à l'époque, c'était assez courant. Donc là aussi, il n'y avait pas de quoi s'offusquer, même si nous, ça peut nous paraître un peu bizarre.
Mais... Alors, on parle des débauches du régent. Il était obsédé par... Enfin, il aimait manger, il aimait boire. Mais le sexe était aussi... Il était dominé par ses désirs sexuels, quand même.
Oui, alors là aussi, si on regarde, on sait qu'il a eu en tout cas une bonne vingtaine de maîtresses avérées, mais alors sans compter les aventures d'un soir. C'est aussi clair que quand il avait 20 ans, donc à la fin du XVIIe siècle, il était, vous l'avez dit, il était au Palais Royal, donc il lui suffisait de sortir du Palais Royal pour aller chercher des prostituées. Et ça aussi, c'est ça aussi qui a forgé sa réputation. C'est-à-dire qu'on n'aurait jamais vu quelqu'un comme Louis XIV ou même comme des grands personnages de la cour s'adonner à cela, alors que Philippe d'Orléans, qui était alors jeune, il était le duc de Chartres, lui n'hésitait pas effectivement à s'acoquiner avec des prostituées, ou encore avec, il aimait beaucoup les danseuses. Il faut dire que l'opéra était aussi attenant au Palais Royal, et donc il n'avait qu'à traverser sa galerie, à ouvrir une porte, comme vous savez si bien le faire, et effectivement à aller séduire donc les danseuses. Alors séduire, c'est un bien grand mot.
Oui, comment ça se passait? Il plaisait aux femmes? Il y ressemblait à quoi, Philippe d'Orléans?
Alors, sa mère dit de lui, effectivement, qu'il a un assez joli visage, mais qu'il manque de grâce, sauf lorsqu'il se met à danser. Après, c'est quelqu'un qui a de la conversation, c'est quelqu'un aussi, même s'il nous est pas resté énormément de bons mots, on sait qu'il avait
de l'esprit,
un certain humour, beaucoup de recul aussi sur ce qu'il faisait. C'était aussi quelqu'un qui avait beaucoup de mal à se prendre finalement au sérieux, y compris dans son métier de régent. Il se faisait aucune illusion sur même l'empreinte politique qu'il pourrait laisser.
Mais comment il séduisait les filles alors?
Stéphane le déconseille.
Non, c'est pas ça, c'est que j'imagine il payait en fait.
Alors, sur les prostituées, oui.
Alors non, les prostituées, on les paye, Stéphane. Sauf quand vous êtes arrivé à un niveau de notoriété comme vous pouvez avoir peut-être des tarifs, mais lui, il payait à chaque fois.
Mais justement, c'est exactement ce que vous dites. C'est-à-dire que, compte tenu de son niveau de notoriété, pour les danseuses de l'opéra, enfin, devant ce type de grand seigneur, vous l'avez dit, avec MeToo aujourd'hui, ça serait vraiment très problématique. On s'inclinait,
Pour le moins,
je puis me permettre, devant Philippe d'Orléans. Voilà.
Donc en fait, elles y allaient parce que c'est pour qui il était.
Pour finir sur le côté gargantuesque des petits soupers, qui tenaient plus de la grande bouffe d'ailleurs que du petit souper. Là, par contre, ils se mettaient vraiment des lampées, c'était vraiment... C'est pas une légende, quoi.
Alors, ce qui vraiment n'est pas la légende, c'est qu'ils buvaient énormément. Après, il faut savoir qu'ils devaient cuisiner eux-mêmes, et par exemple...
Pourquoi ils devaient cuisiner eux-mêmes?
Il n'y avait pas de domestiques.
Les domestiques
ils avaient
étaient...
renvoyé les valets,
bien sûr.
Mais vous imaginez, Stéphane, ça doit être terrible. Ils étaient obligés de cuisiner eux-mêmes, imaginez.
Non.
Alors justement, le régent était un spécialiste d'un plat, c'est-à-dire qu'il aimait beaucoup faire les omelettes. Alors, en même temps, vous voyez, l'omelette, c'est pas non plus quelque chose de gargantuesque.
Les omelettes, attendez, on n'est plus du tout dans le fantasme du grand banquet, alors là. C'est pas du tout comme dans La Fête commence de Bertrand Tavernier, parce que là,
Non, je pense pas qu'effectivement...
Ah, c'est pas Bertrand Tavernier qui a cuisiné non plus.
T'as rien compris.
Non, par contre, les beuvries, ça, vu la tête qu'il avait le lendemain, c'est clair.
Qui a importé le champagne, comme l'a dit Stéphane?
Il l'a popularisé.
Oui, qu'il l'a popularisé parce qu'il adorait ça. C'est vrai qu'il adorait le champagne.
En tout cas, merci Alexandre Dupillet.
Merci
pour
beaucoup.
Enfin tout connaître sur Philippe d'Orléans, il faut lire Le Régent, Philippe d'Orléans, l'héritier du Roi Soleil. C'est votre passionnante biographie et qui est parue chez Talendier. Merci d'avoir été avec nous.
Merci beaucoup.
Merci.
Ici Europe 1. 16h-18h
sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Tous les jours dès 16h. Historiquement vôtre vous raconte l'histoire sans jamais se la raconter. Toutes les histoires, même les plus intimes, la preuve, avec celle qui les connaît toutes, Clémentine Portier-Kaltenbach. Aujourd'hui, on élève le débat.
Vous investissez l'alcôve à ma place.
On se vautre dans le stupre.
C'est vous qui aimez ça d'habitude. On va prendre un peu de hauteur, on va parler vert avec le poète Ronsard.
J'attends de voir.
Oui, mais écoutez, pensez-y 5 minutes. Imaginez combien de poèmes amoureux seraient morts dans l'œuf si l'amour qui les la muse qui les inspira était passée à la casserole. C'est le fait l'effet se recule, plus le désir s'accroît. Vous avez bien compris.
Mal, Stéphane.
Le bonheur est dans l'attente, non dans la possession, c'est bien connu. Alors voilà, écoutez-moi ces beaux vers. Quand vous serez bien vieille, au soir à la chandelle, assise auprès du feu, des vidants et filants. Dirais, chantant mes vers en vous émerveillant, Ronsard me célébrait du temps que j'étais belle. Bah oui,
Stéphane connaît par cœur. J'adore Ronsard.
C'est magnifique. Et ça, ces vers sont les plus connus des 130 sonnets que Ronsard dédia à une seule et même femme qu'il aima éperdument et vainement durant des années, Hélène de Surgères. Ce fut son ultime inspiratrice, car Ronsard eut trois muses dont les noms sont passés à la postérité, Cassandre, Marie et donc cette fameuse Hélène de Surgères. Elle est née le 9 avril 1545 au château de Surgères en Saintonge, et ça on le sait grâce à Ronsard, parce que sans Ronsard, on ignorerait absolument tout de cette donzelle, y compris son visage, car il n'existe ni portrait ni gravure, ni buste, ni rien du tout d'Hélène de Surgères. Mais grâce à Ronsard, on sait qu'elle était brune, aux grands yeux noirs, et que sa chevelure dénouée, un peu comme Sissi, ça vous aurait plu ça Stéphane, sa chevelure dénouée tombait jusqu'au talon. Hein, magnifique, ouais. Une espèce de Vénus de Botticelli en blond.
Elle faisait un 95B.
Elle avec une forte poitrine, voilà. Non, plutôt corps mince, poitrine menue, Ronsard apparemment préférait, et une voix très musicale. Et elle fait partie de l'entourage proche de Catherine de Médicis, vous savez, l'écrivain Brantôme, qui voyait le mal, ou j'allais dire le mal, le sexe, à l'époque on aurait plutôt dit peut-être la ribaudise, il voyait ça partout. Eh bien, il a beaucoup parlé du fameux escadron volant.
Escadron volant des filles de Catherine de Médicis.
Alors lui, il disait qu'il y en avait 300. Bon, en fait, c'était pas du tout ça. Il y avait Catherine de Médicis pour l'année 1568, elle avait une dame d'honneur, 44 dames et 10 filles demoiselles. Donc disons, elle était entourée en permanence d'une cinquantaine de femmes, certainement pas aussi dépravées que le suggère Brantôme, parce que Brantôme dit que ces femmes, l'escadron volant, en fait, il était fait pour coucher avec les messieurs et recueillir des confidences sur l'oreiller, un genre de Matahari, si vous voulez. Bon, tout ça, c'est pas vrai du tout. Hein. Mais il est exact que Catherine de Médicis était entourée d'un essaim de jolies femmes, à commencer par cette Hélène de Surgères. Et Ronsard va en être éperdument amoureux pendant 6 ans, mais il ne parvient pas à s'en faire aimer. Alors, hélas pour l'homme, mais heureusement pour le poète, car cette souffrance amoureuse est évidemment une source d'inspiration majeure. Alors, il essaye une première fois, ça ne fonctionne pas du tout, donc il y a la Saint-Barthélemy, il repart dans ses terres. Bon, quand vous dites
il essaye une première, il essaye quoi?
Il la courtise, la courtise désespérément, puis ça ne fonctionne pas, puis là-dessus Saint-Barthélemy, donc il repart dans ses terres, et 2 ans plus tard, alors qu'il a déjà été conduit, il revient à la cour, il retente sa chance. Il l'aime, mais enfin, il a la cinquantaine, la barbe grise, il est un petit peu sourd, donc c'est quand même pas non plus un perdreau de l'année à ce moment-là, Ronsard. Il la courtise à toute heure du jour et de la nuit, il l'emmène se promener aux Tuileries, des promenades en coche autour de Paris, des bals, des fêtes. À l'occasion d'une grande fête au Flambeau, qu'on a comprise particulièrement sous la Renaissance, les demoiselles d'honneur de la reine incarnent les provinces de France. Et elles apparaissent dans des paniers ornés de nuages en carton. Et Ronsard assiste absolument ébloui à ce spectacle et il écrit quelques vers à Hélène de Surgères hier soir. Qu'amour vous fit en la salle descendre pour danser d'artifice un beau ballet d'amour. Ah, si c'est pas joli. Il est plus amoureux que jamais. Il l'appelle ma Vénus, mon amour, ma charité. C'est beau ça. Ma brune, c'est très beau. Alors ça, c'est le duc de Brissac qui écrit que quand elle part avec Catherine dans le Midi, comme elle a quand même de l'amitié pour lui, elle n'est pas amoureuse de lui, mais elle y tient, elle lui envoie des oranges, des citrons, enfin d'autres sortes de fruits, et lui, il les couvre de baisers avant de les déguster. Est-ce que vous avez déjà fait ça, l'un ou l'autre?
Non,
couvrir de baisers les fruits que vous aurez envoyés quelqu'un qui vous aime, c'est beau.
Mais les petits lus, oui. Des petits biscuits.
C'est merci beaucoup, Clémentine, de nous avoir.
C'est une très belle histoire.
Oui, une très belle histoire. Ce que j'ai du mal à comprendre, c'est qu'elle accepte des promenades et ensuite.
Oui,
alors écoutez, en tout cas, elle est morte immaculée. Elle n'a jamais eu. Tout à fait. Elle est morte à 72 ans, son château de Surgères. Jamais personne ne l'a touchée. C'est vraiment resté
le
une vestale.
Le château ou elle?
Les deux, ni l'un ni l'autre. Le château a été, à mon avis, davantage dégusté depuis. Mais ce que je voulais vous raconter juste en dernier, c'est que la première inspiratrice de Ronsard, Cassandre, vous savez, l'aude à Cassandre, mignonne, allons voir, si la rose qui ce matin avait déclos sa robe de pourpre au soleil. Eh bien, elle, c'est sa fille qui s'appelait Cassandre, a épousé un certain Guillaume de Musset, qui n'est autre que l'aïeul d'un autre très grand poème, Alfred de Musset. C'est une belle histoire de penser à ça quand même. C'est que l'inspiratrice de Ronsard, mignonne, allons voir sur la rose, a une descendante qui épouse un Musset. Et donc elle est l'aïeule lointaine de Musset.
Un peu de poésie dans notre spécial sexe, Stéphane. Je dis, ça fait du bien. Merci beaucoup, Clémentine Portier-Kaltenbach. Vous restez avec nous. Alors en début de saison, je dois avouer que ça m'avait choqué. Stéphane m'avait confié son attirance malsaine pour les histoires de torture moyenâgeuse, la roue, la question, le brise-noix, l'écartèlement, l'empalement. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée d'inventer plus cruel encore, pour lui en tout cas, le quiz à suivre.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Stéphane a toujours la réponse aux questions que je pose à Clémentine. Clémentine a toujours la réponse aux questions que je pose à Stéphane. Pour ce qui est de répondre chacun aux questions que je leur pose à eux, c'est plus compliqué. Jouons à Burn to Be Alive, notre célèbre quiz. Stéphane, la première question est pour vous, c'est la tradition. Et il y a une autre tradition. Quand on devient pape, on change de nom. Ça, vous le savez. Karol Wojtyla est devenu Jean-Paul II. Mais il avait d'abord proposé Lèche 1. Les cardinaux lui ont dit que c'était pas super beau. Vrai ou faux?
Bon, non, je crois pas du tout ça. Non, parce que Jean-Paul Ier venait de mourir. Mm-hmm. Et il voulait s'inscrire. Vous savez, il est mort très rapidement, un mois seulement, et après son élection. Et je me souviens très bien que Jean-Paul II voulait inscrire son pontificat dans la continuité de Jean-Paul Ier. Et il a tout de suite dit qu'il s'appellerait Jean-Paul II.
Parce que vous avez raison, c'eût été en plus vaniteux de dire « moi je conserverai mon... »
Et vous savez, Lèche-Valaisa, je vois pas le...
Ouais. Et puis en polonais, voilà. Lèche-un, le jeu de mots lui aurait passé inaperçu. Hein.
Vous avez gagné.
Oui, vous avez gagné, mais j'ai envie de vous accorder seulement un demi-point. Pourquoi?
Non, m'arrêtez.
C'est mon envie, c'est comme ça, c'est mon sentiment. Et... Pourquoi? Parce que c'est faux, effectivement, il n'a pas proposé Lèche 1, mais il avait proposé autre chose. Vous dites qu'il voulait s'inscrire dans la continuité de Jean-Paul Ier. Il avait d'abord proposé Stanislas Ier, figurez-vous. Et ça, vous ne le saviez pas, Stéphane. Et ça, voilà.
Oui, mais bon, ce n'était pas la question.
Un demi-point.
Non, question.
Question numéro 2.
Oui,
question numéro 2.
Après, c'est facile question de dire que je ne réussis pas dans le quiz tous les jours.
Le sadisme psychologique, vous savez, c'est mieux que la roue aussi. Oui. Vous avez vraiment ça.
Je vais porter plainte pour harcèlement moral.
Respect de l'autorité. Non. Question numéro 2. Clémentine, c'est pour qu'on reste dans les robes. En 1998, l'histoire de l'Amérique est ébranlée. C'est l'affaire Monica Lewinsky. En 2013, même Beyoncé lui rend hommage en inventant un verbe dans une chanson. Monica Lewinskyzé une robe. Vrai ou faux?
Oh bah ça, je pense que c'est tout à fait possible. Ça serait rigolo, je vois pas... Est-ce que ça peut donner exactement...
Vous voyez pas de contre-indication, c'est bon.
Non, je dis oui.
Vous avez...
Et voilà, Stéphane, comment on remporte un point entier en apportant la bonne réponse. Écoutez. C'est bon en plus, hein. Beyoncé c'est toujours bon. Et Monica Lewinsky a même corrigé Beyoncé dans une interview donnée dans le magazine Vanity Fair en disant qu'il aurait été plus judicieux de dire « clintoniser une robe ». Et oui, vous comprenez pourquoi. Pas besoin de vous faire un dessin, on est quand même dans la spéciale sexe. Non, Stéphane n'a pas l'air de comprendre, mon Dieu. Ça vous choque, Stéphane?
C'est mon demi-point qui me choque. Parce que
resté bloqué sur le demi-point.
Mais regardez-moi Stéphane, ça. Il est pas choqué,
Stéphane,
par la...
Tout est possible.
Par clintoniser, non. C'est non. Son demi-point, là, qu'il titille.
Avant un bon pressing, et puis voilà, on en parle plus.
Alors que votre demi-point, c'est plus difficile à ravoir. Question numéro 3 pour vous, c'est ça. Se faire vacciner à la télé pour montrer l'exemple, c'est tout sauf nouveau. Elvis Presley l'a fait en octobre 56 pour promouvoir le vaccin contre la poliomyélite. Vrai ou faux?
Mais vous savez, même Napoléon avait fait vacciner le roi de Rome, Louis XVI, a fait vacciner exactement contre la variole.
C'était pas filmé, enfin.
Non, mais il y a eu des gravures et des représentations.
Écoute, dans la mesure où il a dû faire pas mal de théâtres armés, de choses comme ça.
Je pense que Elvis Presley, ça doit être vrai, oui.
Et c'était un bon citoyen américain.
Vous avez gagné.
Premier point complet de Stéphane aujourd'hui. Un beau point tout rond. Effectivement, c'était en 28 octobre 56.
On pourrait avoir des bons points comme autrefois à l'école.
Et je vous donnerai une image. Au bout d'un moment, je vous donnerai une image.
Les images historiques anciennes, là. Qu'est-ce que c'est?
Bon, alors, c'était le 28 octobre 56, juste avant un live dans The Ed Sullivan Show. CNN est revenu dernièrement sur cet épisode en racontant, je cite, que les jeunes se sont ensuite rués sur le vaccin comme si c'était le dernier iPhone. Et c'est peut-être ça la solution en France, demander à Maître Gims de se faire vacciner, hein. Ça serait pas mal, peut-être qu'il y aurait plus de gens motivés.
Il s'appelle Gims maintenant.
Ah oui, c'est vrai, vous le connaissez bien, vous l'avez croisé dernièrement pour une soirée, pour le réveillon, c'est ça ?
Il s'appelle Gims, pas Maître Gims.
Pourquoi il me frappe si jamais je dis Maître Gims ?
Non, mais c'est pour montrer qu'il
faut rencontrer le Dalai Lama.
Il faut que vous actualisiez votre répertoire.
Il est plus simple, d'accord. Question numéro 4, attention Stéphane, parce que si vous continuez à être insolent, je peux retirer encore un demi-point, ce qui ne ferait plus qu'un point.
Qui t'a fait roi ?
Question
numéro 4,
tout seul, comme Napoléon, je me suis couronné moi-même. Question numéro 4 pour vous, Clémentine. Le 11 novembre 1793, les révolutionnaires interdisent, grâce à une loi, le vouvoiement quand on s'adresse à une seule personne. Vrai ou faux ?
Oui, c'est absolument vrai. On n'avait plus le droit de se vouvoyer. Et c'était même très compliqué, parce que notamment dans les comédies, les tragédies antiques, on devait rajouter aussi citoyens. Et donc ça faussait complètement les alexandrins, c'était ridicule. Mais oui, le vouvoiement, naturellement, était jugé bourgeois. Il était établissé une différence d'ordre entre les citoyens, et c'était très très mal perçu par la Révolution.
Vous avez eu le raisonnement, vous avez même le détail historique, le cheminement de cette loi, c'est magnifique.
Vous avez perdu.
Mais c'est une mauvaise réponse, puisque vous n'avez pas écouté la question jusqu'au bout.
C'est le vouvoiement qui était interdit.
Oui, tout à fait. Ils ont tenté de le faire, mais ils n'ont pas réussi. Le député Claude Bazire propose une loi dans ce sens. Thuriot, qui était dantoniste, s'y oppose. Au nom de la liberté, la Convention se range finalement à l'avis de ce dernier.
Ah oui.
Et oui, c'était évidemment une volonté, mais ça n'a pas été concrétisé en loi.
Ah oui, mais ça a été pratiqué. Alors là, lisez La vertu démagogique de Gosselin Le Nôtre sur Paris sous la Révolution,
relisez,
s'il vous plaît.
Non, lisez.
Vous verrez qu'il était extrêmement, très, très, extrêmement mal perçu de se vouvoyer dans les grandes heures de la Révolution, et en particulier sous la Terreur.
Donc vous avez
probablement raison sur la loi qui n'aurait pas été votée. En revanche, dans la pratique
c'est
appliqué. Moi aussi, je mériterais un demi-point. Hein, parce que je peux vous dénicher le texte de référence pas plus tard que dans 10 minutes.
Eh bien, moi, je vous aurais volontiers accordé un demi-point, mais nous n'avons pas le temps, me fait son signe de la régie. C'est donc Stéphane, grâce à son demi-point, qui s'impose dans le quiz aujourd'hui, une victoire triomphale. Vous voyez, c'était pas la peine de bouder. Vous avez gagné.
<rire> 16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Vous écoutez Historiquement vôtre, l'émission dont je vous rappelle le cahier des charges. Vous racontez l'histoire sans se la raconter. Vulgariser sans jamais être vulgaire, et c'est là qu'intervient Mathieu Noël.
Oui, merci Stéphane, c'est vrai que ma présence dans cette émission lui assure un certain standing, et je joue les modérateurs pour vous éviter de sombrer trop facilement dans la grivoiserie, comme vous y incline votre nature. Et aujourd'hui, j'ai du boulot, puisque nous évoquons trois personnages dont le point commun est qu'ils étaient de sacrés obsédés, Stéphane.
Oui, enfin, pas autant que vous, Mathieu. Mais disons qu'ils étaient assez portés sur la chose. Après Philippe d'Orléans, le régent, je vais vous parler non pas de Joe Biden, je me permettrai pas, surtout que
il n'a pas
l'air non plus d'être un chou-lapin, mais d'un autre président américain, qui ne pensait qu'à cela, était obsédé par le sexe, John Fitzgerald Kennedy.
Et être tiré comme un lapin quand on est chaud comme un lapin, n'est-ce pas là au fond la plus logique des morts ? Je poserai la question, et surtout je vous brosserai le portrait d'un accro au sexe à qui on ne peut pas en vouloir, car lui, c'était maladif. Je vous parle du célèbre golfeur Tiger Woods, qui a bien failli ruiner sa carrière à cause de ça. Il y a d'ailleurs une forme d'acharnement médiatique un peu dégueulasse sur ce pauvre Tiger, alors que d'autres sex-addicts sont passés un peu en dessous des radars. Je veux bien sûr parler de David Castello-Lopez et Olivier Pouls, messieurs.
Oui. Parlons-en. David Castello-Lopez, vous nous racontez les origines
du feu rouge.
Du feu rouge, oui. Et puis, Olivier Pouls va nous entraîner dans les saveurs d'un fromage merveilleux.
Oui, alors c'est assez étonnant, c'est, paraît-il, le deuxième fromage préféré des Français, après le comté. Pourtant, je trouve un peu clivant. Je peux comprendre que tout le monde n'aime pas le Roquefort. Moi, personnellement, j'adore, évidemment, mais je peux comprendre que tout le monde n'adore pas. Et surtout, il y a une histoire assez particulière et une très belle légende qui l'entoure, ce Roquefort.
Il y aura une recette, surtout,
une recette hyper simple.
Et des jeux sexuels à base de Roquefort.
Voilà aussi.
Vous nous l'avez promis.
Mais ça aussi, vous connaissez bien.
Non, je vous en prie. Le mot de la fin reviendra à Stéphane.
Oui.
Stéphane, chaque jour, l'histoire d'une expression qu'on emploie souvent, comme par exemple, les deux, mon général, ou les deux, mon capitaine. D'où ça vient?
Oui, on dit ça souvent.
Je ne dis
tu veux du fromage ou des serres? Les deux, mon général.
Et oui, et donc, d'où ça vient? On le saura en fin de mission.
Oui. Mais ça a un rapport avec l'armée, peut-être.
Mais tout de suite, Stéphane, je vous sens impatient comme rarement avant un récit, peut-être parce qu'il y sera question de pouvoir, de sexe et de cocufiage. Stéphane Bern vous raconte John Fitzgerald Kennedy.
Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
Un jour de décembre 1961, le président américain John Fitzgerald Kennedy rencontre le premier ministre britannique Harold Macmillan. Kennedy lui confie alors, au détour de leur discussion, « 3 jours sans faire l'amour et c'est le mal de tête garanti. Je ne sais pas si c'est aussi votre cas, Harold. » Visiblement, le président n'abusait pas de Doliprane. Donc Kennedy est obsédé par le sexe, il en parle tout le temps, il y pense tout le temps et il le pratique tout le temps. au grand dam de son épouse Jackie, toujours à ses côtés dans la vie publique, mais qui ne le satisfait visiblement pas au lit. John, qu'on surnommait Jack, mais que nous appellerons Kennedy, car on n'est pas très intime non plus, est malade. Il souffre d'une ostéoporose affreusement douloureuse et de la maladie d'Addison. Résultat, aux migraines s'ajoutent des douleurs au dos insupportables. Son médecin lui a donc prescrit de la cortisone, des hormones thyroïdiennes, des opiacés, des amphétamines. Un cocktail explosif aux effets secondaires étonnants. Une hypertrophie de la libido. Et ce n'est pas son père qui lui conseillera de calmer ses ardeurs, bien au contraire. Le vieux Joe Kennedy collectionnait autant les millions que les femmes, dont la star du cinéma muet, Gloria Swanson. On peut supposer qu'elle parlait au lit quand même. Tel père, tel fils, le goût pour les actrices, cette famille. Kennedy partage son lit avec le sex-symbole de l'Amérique, la plantureuse Marilyn Monroe. Il m'a baisé, oui, et alors ? Je préfère que mon président fasse cela à une femme plutôt qu'au pays, répondra Marilyn par provocation aux journalistes qui la questionnent, lassés de leur insistance. Pourtant, la presse ne s'est pas étalée sur le sujet. Il faut dire que le FBI a tout fait pour supprimer les preuves. Dans les années 60, leurs ébats se multiplient dans les palaces et les yachts présidentiels. Mais voilà que l'icône sexuelle se montre romantique, un peu collante aussi. Mm-hmm. Pourquoi ne pas devenir First Lady ? Un jour, Marilyn Monroe appelle même Jackie pour le lui dire. La première dame lui répond « C'est parfait, Marilyn. Tu vas déménager à la Maison Blanche. » Et tu vas assumer les responsabilités d'une première dame. Moi, je partirai, et toi, tu auras tous les problèmes qui vont avec. Lassée par les phrases de son infidèle de mari, Jackie n'assiste pas à la soirée organisée pour célébrer son 45e anniversaire en mai 1962. Tant mieux, car elle aurait difficilement supporté de voir Marilyn ce soir-là, vêtue d'une robe fourreau si moulante qu'elle a dû être cousue à même son corps. La star se met à chanter avec une sensualité provocante son célèbre « Happy Birthday, Mr. President ».
Happy birthday to you.
J'espère que vous chanterez comme ça pour mon anniversaire.
Pas sûr, Mathieu. Ce chant mythique porte malheur. Eh oui, l'actrice est morte 2 mois plus tard. Le FBI aurait-il quelque chose à voir dans ce probable suicide jamais élucidé ? Toujours est-il que le clan Kennedy, on rappelle que Bobby, le frère, avait aussi une liaison avec Marilyn, a fait la sourde oreille aux appels à l'aide de l'actrice. Il faut dire qu'elle avait eu le malheur de confondre amour et sexe. La Maison Blanche se transforme en lupanar sous la présidence de Kennedy. Tout le personnel y passe, aussi bien l'attaché de presse de Jackie que les secrétaires surnommés Faddle et Fiddle. Au printemps 1962, débarque une jolie créature d'1m80, la taille fine et les jambes longues. Elle s'appelle Marion Birdsley, a 19 ans et débute un stage au service de presse de la Maison Blanche. 4 jours après son arrivée, elle se prélasse au bord de la piscine avec Fiddle et Faddle quand arrive le président. 45 ans, oh, il en fait 10 de moins dans son maillot de bain qui permet aux jeunes femmes d'admirer son corps d'athlète. Marion sent que quelque chose est en train de se passer. Oh, elle a vu juste. Une invitation privée arrive dans la foulée. J'ai cru qu'il s'agissait d'un pot de bienvenue.
Oh, la naïve. Cette naïveté touchante.
Il y avait du daiquiri. Oh, j'en ai bu un verre, puis deux. Puis tout doucement, j'ai senti son souffle dans ma nuque. Il m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « Ici, nous serons tranquilles. » Il m'a poussé sur le lit. Oh, je n'ai pas résisté. La stagiaire est aussitôt honorée par le président. Le stage à la Maison Blanche ressemble plutôt à une initiation au plaisir de la chair. Avec Fiddle et Faddle, les parties de jambes en l'air se jouent à 4. Quand elle retourne à la fac du Massachusetts, Marion reçoit vite des billets d'avion d'un certain Michael Carter. Un nouvel amant, direz-vous ? Non, toujours le même. Le président prend simplement un nom d'emprunt et l'invite à Washington. Ah, quand Jackie n'est pas là, Kennedy danse et joue beaucoup, avec des canards en plastique dans la baignoire, par exemple.
Vous avez vraiment des détails très très croustillants, Stéphane.
Ou en demandant à Marion de faire une petite gâterie au conseiller Dave Powers. Powers l'a bien mérité, bah oui, il fournit de belles prostituées au président, tout comme Peter Lawford, le beau-frère de Kennedy. Ah, les poules parties de la Maison Blanche. Je ne vous raconte pas le boulot que Kennedy donnait aux services secrets. Oui, impossible de vérifier l'identité de toutes les prostituées qui passent entre les bras du président à Palm Springs, dans la villa de son ami, on en a parlé ici, Frank Sinatra. Le FBI lui remonte les bretelles quand il s'entiche d'ailleurs de l'ex-amante du crooner Judith Campbell. Et pour cause, elle est aussi la maîtresse de Giancana, le grand patron de la mafia. En août 63, Kennedy met dans son lit une call girl allemande, Hélène Rometsch. Mais Bobby la met vite dans un avion en direction de son pays parce que c'est une espionne. Quand l'amitié avec Sinatra prend l'eau, c'est chez Bill Crosby qu'on poursuit les orgies. Mais les amantes du président sont partout, dans la suite présidentielle, dans la cabine d'Air Force One, dans les limousines. Alicia Dare, Jane Mansfield, Marlène Dietrich, Jean Turney, Norma Shearer ont connu intimement le président. Avec Mary Pinchot Meyer, Kennedy fait même l'amour sous LSD.
Ah, qu'est-ce que ça fait?
J'ai aucune idée. Angie Dickinson dira que JFK lui a offert les 20 meilleures secondes de toute sa vie. Car si la liste de ses conquêtes est longue, elle nous aurait facilement pris toute l'émission.
Oui.
Ses galipettes, elles, sont de très courte durée.
Ah.
Kennedy est réputé pour avoir le sexe expéditif. On dit même qu'il garde un œil sur sa montre en faisant l'amour. Jackie le confirme. Il finit trop vite. Et une fois son désir satisfait, il s'endort aussitôt. Celle qui était toujours à ses côtés, jusque dans la limousine où il fut abattu à Dallas en 1963, ne le rebute pas. Au contraire, lors d'un séjour en France, il demande même à Madame Claude, mère Macrel du tout Paris, le sosie de Jackie, mais en plus libéré, en plus haute. Et oui, vous l'avez compris. Kennedy les aime chaudes. Some like dogs.
Europe 1, historiquement vôtre.
Pour continuer à parler de John Fitzgerald Kennedy et ses nuits de folie, et pas que ses nuits d'ailleurs, visiblement la journée aussi se passait des choses, nous sommes avec l'historien Georges Ayache. Bonjour.
Bonjour.
Georges Ayache, vous êtes historien, vous avez écrit plusieurs ouvrages sur les Kennedy et les présidents des États-Unis, et vous avez aussi publié JFK, une histoire sexuelle aux éditions du Rocher. Ça ne s'invente pas. Raconter cette histoire sexuelle est nécessaire pour comprendre la véritable histoire du président Kennedy, celle avec un grand H.
Oui, bien sûr. On ne peut pas dissocier l'homme, y compris sa vie intime du président. Dans le cas de Kennedy, c'est encore plus flagrant parce qu'il y aurait pu avoir des incidences fâcheuses sur sa vie de président en raison de sa vie intime.
Stéphane, vous citez l'exemple d'une espionne même qui avait été détectée au dernier moment par les services secrets.
Tout à fait, mais même sur son plan personnel, l'abus de drogue, de médication aurait pu effectivement lui jouer des tours dès les débuts de sa présidence, dès 1961.
Mais il n'avait pas peur qu'on raconte, certaines l'ont fait. Par exemple, je parlais d'une stagiaire de 19 ans, Marion Birdsley. Elle a raconté tout ça dans un livre.
Oui, mais
c'est elle qui a balancé sur le versant obscur de la vie de JFK. Il n'avait pas peur qu'elle témoigne après, comme après Monica Lewinsky l'a fait avec Clinton.
Alors non, précisément parce que le livre de Marion Birdsley a été publié en 2012. Elle avait 70 ans.
Donc, elle a attendu que tout le monde meure.
La prescription était depuis très longtemps atteinte. Non, mais même de son vivant, il n'avait pas cette crainte parce qu'il y avait une sorte d'autocensure générale.
Mais alors, comment vous l'expliquez? Cette autocensure, ça paraît fou avec le recul aujourd'hui de se dire qu'il y a une forme de complaisance. On voulait pas égratigner le mythe Kennedy?
Tout à fait. Même avant que le mythe ne se crée, il y avait une sorte de sympathie évidente de la presse pour JFK. Et il roulait pour lui. Durant l'élection de 1960, ils étaient à 90% en sa faveur. Donc il y avait une sorte de sympathie qu'attisait d'ailleurs le père Kennedy à coup de dollars. Certains journalistes étaient carrément stipendiés pour ne pas en parler, pour faire le blackout. Durant la campagne présidentielle de 1960, Kennedy s'en donné à cœur joie avec toutes sortes de maîtresses. La presse n'en a jamais parlé.
Ça serait plus possible aujourd'hui.
Ah non, bien sûr que non. Non. Les choses ont changé, si vous voulez, à partir des années 70. Et la presse a commencé à se libérer à partir de l'adversaire politique de Kennedy, qui était Nixon. Alors là, c'était pas une histoire sexuelle, mais il y a une sorte de relâchement, de faire en sorte que la vie privée, la vie personnelle des présidents ne devait plus être dissimulée. Et à partir de là, les vannes étaient ouvertes et il a fallu quelques scandales, si vous voulez, même avant Clinton. Il y avait un premier scandale avec un candidat démocrate à la présidence en 1984, Gary Hart, qui a été disqualifié quasiment à la suite d'une révélation sexuelle.
Stéphane l'a dit, JFK prenait beaucoup de médicaments, dont des amphétamines, de l'opium. Est-ce que ce sont ces drogues qui en fait en ont fait un accro, ou est-ce qu'avant tout ça, sa vraie nature aussi s'exprimait, l'héritage paternel aussi? Est-ce qu'il était obsédé à cause des médicaments, ou il est devenu obsédé, ou il l'était?
C'est-à-dire que c'est un prédateur sexuel tout à fait atypique, parce qu'il y a trois composants qui viennent se juxtaposer pour former un peu son comportement. D'abord, sur, sur le plan de sa personnalité propre, il a du charme. C'est un homme qui pouvait avoir n'importe quelle fille, ou presque, si vous voulez, grâce à sa façon d'être, de parler, de sourire. La deuxième chose, effectivement, c'est la tradition familiale. Le père a encouragé ses fils dans un machisme débridé sur le plan sexuel, et donc ils n'ont pas eu à se forcer pour suivre sa trace. Et puis enfin, dans le cas de JFK, il y a les médications, comme vous le disiez. Ces médications qui étaient destinées notamment à lutter contre la maladie d'Addison, qui atteint les glandes surrénales, hein, donc qui est très grave comme maladie, dont on mourait facilement à l'époque, hein, avaient trois conséquences. D'abord, sur le plan corporel, ça le faisait un peu grossir, ce qui dans son cas était plutôt bien, parce qu'il était un peu fil de fer quand il était jeune, et donc ça lui donnait une sorte de maturité encore plus séduisante. La deuxième chose, c'était un teint bronzé. On disait qu'il était sportif. Non, il n'était pas tant sportif que ça. C'est les médicaments qui lui donnaient un teint bronzé et très avantageux pour lui. Et enfin, comme vous le disiez, une hypertrophie de la libido qui est à la suite de cette prise de médicaments.
Le pouvoir, ça aide. Mais au fond, c'est un prédateur quand même. Quand on voit la liste des filles...
Est-ce qu'elles sont consentantes, surtout toutes? Est-ce que ça, on le sait? Ou est-ce qu'on pense que parfois, il a un peu abusé de son pouvoir?
Vous savez, bon, le mot consentement, aujourd'hui, on peut parler beaucoup de lui. Mais à l'époque, le problème ne se posait pas. Et par la suite, c'est une constante du pouvoir. Le pouvoir accroît les facultés de celui qui le détient. Mais il attire également les femmes comme la lumière sur des lucioles. Donc il y a cette attirance, si vous voulez, instinctive, sans qu'il exerce la moindre contrainte, etc. Elles étaient pratiquement toutes consentantes.
Mm-hmm. En tout cas, merci Georges Ayache, comme toujours, vous êtes d'une précision redoutable. On vous laisse guetter avec attention les premiers pas de Joe Biden, le nouveau président américain. Alors, des dossiers, vous en racontez sur un autre président, Nixon, dans votre dernier ouvrage, La chute de Nixon, qui vient de paraître aux éditions Perrin. Mais nous aurons l'occasion d'en parler dans une prochaine émission. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Georges Ayache.
Merci à vous.
Ici Europe 1.
16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Aujourd'hui dans Historiquement vôtre, nonobstant l'horaire familial de notre émission, nous nous encanaillons quelque peu en évoquant trois grands obsédés de l'histoire. Deux sont morts, j'en ai parlé. Philippe d'Orléans, le régent, et John Fitzgerald Kennedy. L'un est toujours actif, si j'ose dire. Il s'agit du golfeur Tiger Woods, dont l'addiction au sexe a failli le perdre. Tiger Woods, dont Mathieu nous brosse maintenant un portrait à 99% vrai.
Oui, en vous révélant d'emblée le 1% faux, c'est quand je dirais, en accord avec ses 12 avocats et ses 17 attachés de presse, qu'il est aujourd'hui sevré. Vous reconnaîtrez ce moment grâce au son du pipeau qui retentira alors dans le studio. Car vous connaissez le théorème de Bruel, obsédé un jour, obsédé toujours. Désolé d'avance pour ceux de nos auditeurs qui, à cette heure-ci, sont au volant de leur SUV Volvo et ramènent leurs enfants du catéchisme. Bouchez les oreilles de Prune et Jean-Eudes, car à l'issue de cette émission, vous pourrez dire, comme Stéphane au lendemain d'une soirée courtisan-courtisane à Tiron-Gardet...
Il y a eu de la coke, il y a eu de l'abus...
Je vois que David, toujours prévoyant, s'est muni d'un rouleau de sopalin, il a raison. Car cet après-midi, on parle des turpitudes sexuelles du plus grand golfeur de tous les temps, Tiger Woods, dont le biopic que je vous propose pourrait s'appeler « Le 19e trou ». Le film commence par un plan séquence façon Christopher Nolan, c'est assez chic, mais avec la musique de Benny Hill. Novembre 2009, Windermere, état de Floride, une femme blonde en pyjama Gucci poursuit une Cadillac à 2h25 du matin dans une rue calme bordée de demeures cossues. Elle est armée d'un club de golf, un fer 7 pour être précis. C'est Ellie Nordegren qui poursuit son mari, Tiger Woods, père de ses enfants, après avoir appris sa liaison avec la sulfureuse Rachel Huchitel. La poursuite a commencé dans leur maison et face à la détermination vengeresse de sa femme cocu, Tiger, tout champion qu'il est, choisit la fuite. Il bondit dans son 4x4, mais ensuqué par une bonne dose de Zolpidem, il se paye d'abord une borne incendie avant de s'encastrer lamentablement dans un arbre. Le fer 7 s'en donne alors à cœur joie sur les vitres de la Cadillac et Ellie expliquera que « Non, monsieur l'officier, c'est pas du tout ce que vous pensez, c'était pour désincarcérer mon époux qui n'arrivait pas à ouvrir la portière. » Ben tiens. Mais comment la vie du plus grand golfeur de l'histoire a-t-elle pu se transformer, du jour au lendemain, en un épisode tout pourri digne d'une telenovela bolivienne? Tout commence le 30 décembre 1975 en Californie. On ne dira pas que Eldrick Woods, que son père appellera vite Tiger, est né un club à la main, heureusement pour sa mère, mais il est d'une précocité absolument incroyable. Fils d'un militaire retraité des forces spéciales accro au golf, Tiger se retrouve avec un club entre les mains dès l'âge de 2 ans. À l'âge où n'importe quel mouflet te démolit connement les colonnes de cubes en plastique en répondant en boucle à la question existentielle posée par ses parents « Et comment il fait le chien-chien ?» Tiger, lui, répondait un peu là. Écoutez, je ne sais pas comment fait le chien-chien. En revanche, si vous aviez l'amabilité de bien vouloir me laisser travailler mon swing, merci. Oui, il est précoce. Il frappe des balles de golf dans un filet au fond du garage. Il s'entraîne du matin au soir. À 3 ans seulement, il réalise 9 trous en 48 coups et se fait un peu d'argent de poche en plumant des joueurs qui s'amusent à le défier. Son talent s'avère inouï. À 11 ans, ça y est, il bat son père. À 21, il devient professionnel et moins d'un an après, eh ben, tout simplement numéro 1 mondial. Il commence à collectionner les coupes. Ce qu'on sait moins, hélas, enfin à l'époque, c'est qu'en privé, il collectionne aussi les coups. Or, Tiger est un homme marié à cette fameuse Elin Nordegren, celle qui courait derrière le 4x4 avec le fer 7. Avec leurs deux enfants, les Woods dégagent une image ultra saine de famille parfaite qui permet à Tiger d'accumuler les sponsors et les contrats à hauteur de 110 millions de dollars par an. C'est le 26 novembre 2009 qu'un coup de tonnerre retentit dans le manoir de Windermere. Stéphane, coup de tonnerre. Bien, le postier vient de déposer l'édition du jour du National Enquirer qui titre « Tiger Woods infidèle, le scandale ». Oui, merci Stéphane, c'est bon, l'ambiance est installée, j'ai plus besoin de vous. À l'intérieur, un reportage détaille la liaison de Woods avec une hôtesse de boîte de nuit new-yorkaise, Rachel Huchitel. Fait comme un rat, Tiger choisit l'attitude que choisissent tous les hommes au monde lorsqu'ils ont trompé leur femme et quand ils sont faits comme des rats. Il dit la vérité, toute la vérité. Non, je déconne, il lui ment pour gagner du temps. Avant la sortie du journal, il la prévient et lui jure qu'il s'agit d'une histoire montée de toutes pièces.
Ah, je vous jure, sur ce que vous avez de plus précieux au monde...
C'est une façon de jurer assez atypique. Il ajoute, enfin chérie, c'est ridicule. Moi et cette femme vulgaire avec des gros seins. Attention, tu sombres dans la paranoïa. Plus vicieux encore, Tiger va jusqu'à arranger un rendez-vous téléphonique entre les deux femmes. Pendant 30 minutes, Rachel insiste sur le fait que tout est évidemment faux. Woods est soulagé, Elin un peu moins. Insomniaque, Tiger prend un somnifère et s'endort. Elin, elle, chope son téléphone sur la table de nuit et trouve le numéro de Rachel Huchitel dans les contacts. Et non, à l'époque, pas de verrouillage du smartphone par Face ID. Dommage, Tiger, seulement la bonne vieille date d'anniversaire de mariage en guise de mot de passe. Une petite manip plus tard et elle trouve un SMS de son mari. « Tu es la seule que j'ai jamais aimée. » Pas dégonflée, elle écrit « Tu me manques, quand est-ce qu'on se voit ?» Huchitel tombe dans le panneau et répond « Tu ne dors toujours pas? Tu m'as dit que tu avais pris tes cachets. » Là, évidemment, Elin pète un plomb, regarde son mari endormi et se dit, comme Stéphane découvrant une photo récente de Régine,
« C'est un monstre. »
Elle lance alors à Huchitel « Je savais que c'était toi, salope, je sais tout !» Oh fuck, lâche Rachel Huchitel à l'autre bout du combiné. Tiger se réveille en sursaut, la course-poursuite dont je parlais tout à l'heure commence, vous en connaissez l'issue. Nuit éprouvante s'il en est, et encore, contrairement à ce qu'elle croyait, Madame Woods ne savait pas tout. Huchitel n'était que l'arbre qui cache la forêt. Sur le chemin, déjà douloureux du divorce, la presse révélera 2, 3, puis 4, puis 12, puis 18 autres maîtresses de l'insatiable Tiger, jusqu'à ce que le diagnostic tombe, nous avons affaire un sex addict. Tiger perd ses contrats avec Nike, Gatorade ou encore Gillette. Et non, Stéphane, aucun créatif de chez Nike n'a proposé d'apposer une petite virgule sur des sextoys. Tout se casse la gueule, son corps ne suit plus, il enchaîne les blessures. Surtout, il tente de se désintoxiquer. Plus de sexe, beaucoup d'anaphril. Tout ça au sein de la prestigieuse clinique de Pine Grove, spécialisée dans le traitement de l'addiction. Porte bien son nom. Au sexe, où il occupe la chambre Stephen Byrne, du nom d'un des patients les plus réguliers. Tiger va y suivre pendant 45 jours un traitement contre les addictions sexuelles baptisé Gratitude. La thérapie lui permet de mettre des chiffres sur ses performances. Passé, entre guillemets, il reconnaît avoir couché avec près de 120 femmes quand David apprend ça.
J'ai vomi de douleur.
De jalousie surtout. Tiger avoue aussi que même quand il n'était pas en train de coucher avec quelqu'un, il regardait les autres le faire sur son portable, blindé de films pour adultes et autres cartoons classés X. J'ose même pas imaginer ce qui est arrivé à Dingo et Tic et Tac. Heureusement, la volonté du sportif sera finalement plus forte que la faiblesse de l'homme. Tiger vaincra son addiction au sexe à jamais. Reviendra fidèle à sa nouvelle compagne. Et là, vous pouvez arrêter le pipeau. Redeviendra le meilleur joueur de golf du monde en remportant le Masters d'Augusta en 2019. Sublime comeback, mais que de temps perdu quand même à cause d'un problème de braguette. Morale de l'histoire, si votre femme vous prend la main dans le sac avec une autre, n'essayez pas de mentir. Vous bafouerez comme Tiger et David quand sa femme l'avait chopé avec Constance. Et vous ne savez plus quoi dire et votre femme découvrira, quoi qu'il arrive, le poteau rose. Alors, jouez la carte de l'honnêteté, admettez la tromperie. Ou alors, messieurs, ou alors, faites comme moi. Tout simplement, soyez fidèles. Oh, non, la régie là, non, enlevez-moi ça.
Merci Mathieu, c'était 99% vrai, il y a donc 1%
oui,
de
c'est
faux.
Il n'y a pas une chambre qui porte votre nom dans la clinique de Pine Grove, mais c'est à l'étude, parce que vous avez fait quand même 6 séjours déjà, au 7e, ils font une chambre à votre nom.
16h, 18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Historiquement vôtre, l'émission qui vous raconte l'histoire sans se la raconter. J'aimerais faire une digression importante. L'autre jour, j'arrivais à Europe 1 et j'ai vu quelqu'un dans une Mini Cooper griller un feu rouge. J'ai été profondément choqué, surtout quand j'ai reconnu ensuite Stéphane Bern sortir de cette voiture. Oui, j'étais juste derrière vous, j'étais en scooter. Et donc, ça j'ai c'est très mal. J'espère qu'il n'y a pas de vidéosurveillance à cet endroit-là. Le feu rouge, voilà une invention.
Je ne grille jamais. Vous êtes fou, ça vous fait terriblement de points.
Oui, quand on se fait choper. Vous pourriez.
Mais c'est pas bien de dénoncer. Vous, j'aurais pas aimé vous connaître pendant la guerre.
Il était planqué en Suisse.
David, David Castello-Lopez, vous nous racontez l'origine de cet objet très important de notre quotidien, le feu rouge.
Tout à fait. Alors, je l'ai déjà assez souvent répété à ce micro, je n'ai pas mon permis de conduire. Voilà.
Ah, c'est vrai.
Mais je dois dire que ça m'a jamais particulièrement embêté de pas l'avoir, à part, j'avoue, pour des questions d'affirmation de ma virilité. Parce que, dans l'ordre naturel des choses, un homme doit savoir conduire, et il doit savoir conduire bien, c'est-à-dire d'une façon à la fois énergique et nonchalante. Hein, c'est ça la conduite virile. Et à force d'observation, je pense qu'une des meilleures façons de mesurer ce mélange viril d'énergie et de décontraction dans la conduite, c'est la façon dont les messieurs s'arrêtent au feu rouge. Alors, vous, Mathieu, vous avez votre permis, hein, que vous utilisez pour conduire alternativement une Bugatti Veyron et une Lamborghini Veneno. Et vous, je vous ai jamais vu conduire, mais j'imagine que vous êtes le genre de gars qui gère très bien les feux rouges. Je suis sûr que vous êtes le genre de gars, quand vous arrêtez au feu rouge, vous posez votre poignet sur le haut du volant et vous laissez pendre votre main de façon super décontractée, comme ça. Et puis, je pense que vous baissez un peu la tête pour apercevoir une fille un balcon, vous voyez. Vous fixez son regard.
Pas du tout.
Et au moment de redémarrer, vous faites un petit signe militaire à la Top Gun, comme ça. Et je suis sûr que vous faites ça.
Uniquement avec ma compagne, voilà. Je la vois dans la rue. Effectivement,
et là, vous mettez les gaz pendant que moi, je pédale comme un con en Vélib à côté. Voilà. C'est ça, le folklore viril du feu rouge. Et ce folklore viril du feu rouge, il n'aurait pas pu exister sans le feu rouge. Hein, voilà. Alors, il est temps de savoir depuis quand ça existe, les feux rouges. Les feux rouges, ça existe depuis 1868 à Londres, hein, où il y en a un qui a été installé devant le Parlement pour réguler le trafic de carrosses. C'était un feu rouge au gaz qui était actionné par un policier qui était préposé uniquement à ça. C'était son travail. Et malheureusement, ce feu rouge au gaz, il a explosé l'année suivante à la gueule du dit policier.
Non.
Et du coup, il a été supprimé. Le policier a été blessé, le feu rouge a été supprimé. Mais le feu rouge est rené. Et oui, il est rené, c'est le parti passé de renaître, c'est comme ça.
Il est rené.
Il est rené, mais il est rené plus tard, beaucoup plus tard, dans les années 1910 aux États-Unis, à un moment où le nombre de voitures commençait à exploser, car c'est dans les années 10 aux États-Unis que sort la Ford Model T, connaissez, qui est la première voiture grand public de l'histoire de l'humanité.
On en a parlé.
Grand public pourquoi? Eh bien parce qu'elle était relativement bon marché, coûtait en gros le prix de 5 ou 6 mois de salaire d'un ouvrier, ce qui est beaucoup, mais qui n'est pas non plus totalement inabordable. Et donc, de plus en plus de voitures, ça veut dire de plus en plus d'accidents. Et là, on commence à se dire qu'il faut faire quelque chose, et il y a un ingénieur de l'Ohio qui a redécouvert le feu rouge, en quelque sorte, et il a eu l'idée d'utiliser l'électricité qui servait à alimenter les tramways, et il a installé comme ça le premier feu rouge moderne de l'histoire à Cleveland en 1914. Voilà.
Vous voyez, est-ce qu'il était déjà avec le vert, l'orange et le rouge ou non?
Non, il était que rouge. Il était que rouge ou rien.
D'accord.
Voilà.
Rouge ou rien.
Alors bien sûr, à ce moment-là et pendant encore des décennies, le feu rouge, il était actionné manuellement par un policier qui se trouvait dans une petite cabine aux intersections.
Un policier de petite taille.
Oui, peut-être. Exactement. Et au début, le policier n'actionnait qu'une seule lumière, et puis avec les progrès du câblage, il pouvait avec un seul interrupteur en actionner plusieurs qui étaient synchronisés. Et je dois dire qu'à partir de là, l'histoire du feu rouge, c'est une histoire assez ennuyeuse d'inventions successives, d'automatisation, de feu pour piétons. Le petit bonhomme vert et rouge, par exemple, qui ont été standardisés en France, c'était en 1974. Et tout ça, ça amène surtout la question du futur du feu rouge. Eh bien, le futur du feu rouge, c'est bien sûr l'absence de feu rouge. Parce que le feu rouge, c'est un truc qui est fait pour pallier les insuffisances humaines. Mais si votre voiture est autonome et que toutes les autres voitures sont autonomes, il n'y a plus d'insuffisances humaines. Parce que les machines, elles ont en permanence toutes les connaissances et les intuitions nécessaires au fait de ne pas se rentrer dedans, et elles peuvent les mobiliser à la vitesse de la lumière.
Vous voulez dire que je pourrais même frimer au feu rouge?
Ben voilà, elles savent exactement quand la voiture en face va s'arrêter ou quand elle va démarrer. Elles ajustent leur comportement seul, sans vous et sans feu rouge. Donc un jour, le feu rouge, dans le futur, ce serait une antiquité, et sera un petit peu triste d'imaginer ce futur, parce qu'on n'aura plus, Mathieu, le plaisir de vous voir vous arrêter avec le poignet qui pend sur le volant de votre Lamborghini.
Même, alors déjà, je n'aurai jamais de Lamborghini pour des raisons financières et de goût, mais au-delà de ça, qu'est-ce qui m'empêchera dans ma voiture autonome de laisser ma main pendue? Il y aura quand même un volant de secours, même dans les Tesla, vous avez un volant.
Mais une action qui est juste là pour l'ornement n'est pas virile. Oui, il faut qu'elle serve un petit peu
à quelque chose. Je vais vous dire, je renoncerai à la virilité, mais je garderai ma main molle sur le volant, c'est très important pour moi.
Je suis d'accord avec vous. Bravo Mathieu. Merci David. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et sur le site europe1.fr.
Stéphane, santé ?
Ah oui, ça sent le Roquefort.
C'est Olivier Pouls. À tout de suite.
16h, 18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Historiquement vôtre, c'est aussi, vous le savez, l'histoire de votre quotidien et de votre quotidien gastronomique. Chaque jour, avec Olivier Pouls, on découvre l'histoire qui se cache derrière nos petits plats préférés. Vous savez, ceux qu'on se cuisine tous les soirs, comme ça, au débeauté.
Des filets de sole à la vénitienne, oui. Du homard à la parisienne, oui. Du pâté chaud de caille, oui. De l'escalope de turbo gratin.
Oui, bah, quand on a quelqu'un pour faire la cuisine, sinon c'est pas ça qu'on prépare. Olivier Pouls, aujourd'hui, vous nous parlez d'un produit que Stéphane et moi adorons.
Ah, enfin.
Mais qu'il ne faut pas consommer, disons, lors d'un premier rendez-vous.
Non, pas forcément, sauf si la personne en face a consommé la même chose. C'est comme l'ail, hein, voilà, c'est le genre de produit qu'on évite dans certaines circonstances. Mais pourtant, Dieu sait que c'est bon. Le Roquefort, c'est quand même l'un des meilleurs fromages, en tout cas l'un de ceux qui a le plus de caractère. Et c'est un vrai emblème de notre savoir-faire fromager français, puisque c'est ce qu'on appelle un fromage au lait cru. Vous savez qu'il y a une grande bagarre aujourd'hui pour savoir s'il faut pasteuriser ou non les fromages. L'industrie versus les vrais producteurs, et on peut dire que du côté de Roquefort...
C'est du brebis,
évidemment.
Il faut le dire.
Voilà, c'est une pâte persillée de brebis au lait cru, et on sait se battre, et on s'est battu pour conserver ce vrai savoir-faire qui est vraiment localisé sur une toute petite zone. Mais pour revenir à l'histoire de ce fromage dont on parle sous le nom de Roquefort depuis le XIe siècle, il y a une petite légende que j'ai envie de vous raconter, parce que je la trouve vraiment très très sympathique, puis ça vous donnera un petit truc à raconter ce soir à vos amis quand vous servirez le plateau de fromage. Le Roquefort serait peut-être né un peu par hasard, justement, bah, dans une grotte sur le rocher de Cambalou. Nous sommes évidemment dans l'Aveyron, et il y a un jeune berger qui est là et qui tout à coup voit passer une jeune fille qu'il trouve fort délicieuse, fort à son goût, et il décide de la suivre. Et il part un peu dans la précipitation et il laisse dans la grotte dans laquelle il s'était installé son petit baluchon avec ses provisions. Et il part un jour, deux jours, trois jours.
Pas très bien ce qu'il fait. Il a suivi super longtemps.
Ouais, il est un peu obsédé. Je pense que le mec, ça nous relie un peu avec nos obsédés sexuels du jour. Le gars, il a probablement un petit problème, quoi. Parce que suivre la fille trois jours. Alors, l'histoire ne raconte pas s'il réussit à la pécho ou pas. Enfin, bref. Il revient sur sa zone. Puis, évidemment, il a faim. Ça creuse toute cette histoire.
Trois jours.
Il ouvre son baluchon qui était composé de fromage de brebis frais. À l'époque, on le mangeait comme ça. Et puis d'un morceau de pain. Et à cause de l'humidité de la grotte, qu'est-ce qui s'est passé? Le fromage, il a moisi. Il s'était mis à l'abri, qu'est-ce que vous voulez?
C'est confortable, une grotte. D'accord, j'essaie de...
Ah ben voilà, et il se dit, mais j'ai rien à manger, je vais quand même le goûter. Et paf, il goûte ce fromage qui a pourri.
Et c'est le même gars qui a vu des escargots qui a dit, tiens, je vais les goûter.
Peut-être. Et il adore ça. Et ben voilà, comme quoi, finalement, avec un petit peu de pulsion sexuelle, on peut créer un grand fromage.
Ou alors, avec du marketing de chez Publicis, c'est dit, attends, le truc, il est bleu, comment on peut inventer une histoire cool sur l'origine?
Ouais, mais écoutez, moi, j'ai envie d'y croire parce que j'aime bien ces histoires. Alors, c'est vrai que depuis, le fromage est devenu, je le disais, un des grands emblèmes de notre gastronomie. Il est issu d'une race de brebis très particulière, la brebis Lacone. Il est réalisé dans des conditions, là aussi, très particulières. C'est vraiment l'essence même de ce qu'on peut appeler le terroir, c'est-à-dire la relation entre un lieu et un savoir-faire. Il y a un seul lieu de fabrication, hein, c'est le village de Roquefort avec ses caves absolument magnifiques qu'on peut visiter en temps normal quand tout va bien et qui sont une alchimie très particulière de température, d'hygrométrie, de ventilation qui fait que dans cet endroit-là, plus qu'ailleurs, se développe ce qu'on appelle le Penicillium Roqueforti, donc une pourriture comestible qui va donner le goût particulier à ce Roquefort après 4 à 5 mois d'affinage. Et c'est un fromage qu'on peut manger, évidemment, tout simplement comme ça, mais qu'on peut aussi cuisiner. Et je vous donne une petite recette assez rapide et assez efficace, que vous pourrez faire ce soir d'ailleurs, d'une crème d'endive au Roquefort.
Oh, oui, c'est bien ça.
L'endive et le Roquefort se marient bien, tout simplement, en salade.
Même en salade.
Mais là, l'idée, c'est de faire une crème d'endive. Donc, c'est de cuire les endives, tout simplement, dans une poêle à couvert. Quand elles sont bien cuites, on va prendre 8 endives pour 4 personnes. On va rajouter 75 centilitres de bouillon de volaille, un petit peu de crème, sel, poivre. On mixe le tout. Et à côté, on fait revenir des petits lardons et on coupe des morceaux de roquefort en petits cubes. Et on vient juste poser les lardons grillés et les dés de Roquefort dans cette crème d'endive. L'association des trois, c'est un peu comme des endives au jambon, un peu lointaine, j'aime pas le terme revisité, mais en tout cas très largement réinterprété. Je vous garantis que c'est assez surprenant. Et l'association, ce crémeux du Roquefort, le petit goût de particulier qu'il a et l'endive, c'est un très très beau mariage.
Comme quoi, envie, hein.
Comme quoi vive ce petit berger obsédé sexuel.
Tout part toujours d'un obsédé sexuel dans l'histoire, j'ai l'impression quand même. C'est les obsédés sexuels qui font avancer le monde.
Bien sûr.
Absolument. Merci beaucoup Olivier Pouls.
Et on retrouve toutes vos recettes, où ça?
En podcast et puis
sur le
site
d'Europe1.fr.
Évidemment.
Stéphane Bern, vous allez avoir le dernier mot de cette émission, un peu comme tous les jours finalement, pour décrypter une expression qu'on utilise. C'est vrai que celle-ci on l'utilise au quotidien. On
l'a... Oh, bah, les deux mon capitaine, ou les deux mon général.
16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Les mots en soi ne sont pas si compliqués. C'est les agencer dans le bon ordre qui se révèlent parfois problématiques pour Stéphane.
C'est si flou que, qu'il y a un loup.
Stéphane, t'as dit... Si c'est... T'as pas dit si c'est flou, c'est qu'il y a un loup. T'as dit c'est si flou qu'il y a un loup.
C'est... Ah oui. C'est si flou que... Si c'est flou, c'est qu'il y a un loup.
Allez Stéphane, concentrez-vous et livrez-nous dans le bon ordre votre mot de la fin.
Alors quand on vous pose une question où vous avez à choisir entre deux options mais que vous n'avez pas envie de trancher, bah, vous dites souvent les deux mon général.
Mais oui, ou alors c'est vrai qu'on dit aussi c'est les deux mon capitaine. J'imagine que ça vient de l'armée.
Les deux mon capitaine.
J'avais proposé l'armée.
Pardon, autant pour moi. Eh bien, cette expression vient effectivement de la grande muette. D'une blague, plus précisément. Une fois n'est pas coutume, je vous la raconte. Des soldats vont se faire inspecter par un général et la veille, on leur donne les réponses. Quand le général dira « Quel âge avez-vous ? » il faudra répondre « 20 ans ». Quand il vous le dira « Depuis quand êtes-vous là ? » 6 mois. Et quand il vous demandera si vous préférez les choux ou les patates, faudra dire « Les deux, mon général ». Le lendemain, c'est l'inspection. Le général arrive et dit aux soldats « Quel âge avez-vous ? 6 mois, mon général. Depuis quand êtes-vous ici ? 20 ans, mon général. Vous me prenez pour un abruti ou un imbécile ? Les deux, mon général. » Au-delà de la blague, l'expression exprime le fait que, à l'armée, devant un haut gradé, on n'exprime pas ses goûts personnels. On prend les deux. Autre hypothèse, l'expression « une légende veut qu'au IXe siècle, un personnage ait accédé à la fonction papale après avoir caché le fait d'être une femme. À sa mort, un ecclésiaste avait été chargé de vérifier son anatomie. On lui demandait « alors, c'était un pape ou une femme ?» Il répondait « les deux, mon cardinal ». C'est une blague, parce que depuis la papesse Jeanne, on doit vérifier que le pape est un homme et on prononce cette phrase rituelle « duo abet et bene pendentes ».
Vous ne la traduisez pas ?
Pendentes ?
Il en a deux. Et
oui, 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 c'est ça. Oui.
Était-ce une légende totalement inventée ou inspirée de faits réels ? Certainement les deux, mon général.
Eh bien, un nouveau numéro d'Historiquement Vôtre s'achève, et pas n'importe lequel, c'était aujourd'hui, les amis, notre 99e émission, ce qui signifie que demain, ça sera notre...
100e.
C'est pas une émission d'histoire, mais de mathématiques que nous aurions dû faire. Oui, demain, c'est la 100e d'Historiquement Vôtre. J'imagine que c'est un programme de gala qui nous attend, Stéphane.
Oui, demain, c'est la 100e, alors je vais vous dire, Mathieu, on se lâche, on écrit sur les murs.
On écrit quoi ?
Bah, les noms de ceux qu'on aime. Et ceux de nos personnages. On réunit trois personnages qui ont écrit sur les murs. La femme préhistorique dans sa grotte. Le street artist Basquiat dans des quartiers branchés de New York. Et Demis Roussos qui a écrit sur les murs à l'encre de nos veines.
Ça y est, j'ai compris votre folie, j'ai compris le thème de l'émission. Hâte d'y être pour cette 100e. Est-ce que vous allez vous déguiser, Stéphane ?
Ah oui, en homme des cavernes.
Super, mais moi en journaliste. À demain.
Retrouvez Historiquement Vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur Europe 1.fr.